Cette intervention était destinée au public qui est constitué de didacticiens et de personnes qui ne sont pas didacticiennes. Mais quand je regarde la composition de cette salle, en fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus de didacticiens que de non-didacticiens. Donc, je vais essayer de remplir ma mission en le peu de temps qui m'est imparti. Alors, je dois dire que je dois remercier Sophie Renée de Cotteret parce que hier soir, j'étais dans l'embarras. Et elle m'a proposé diverses clés pour pouvoir me sortir de l'impasse dans laquelle je m'étais engagé. Et donc, j'ai utilisé les clés qu'elle me donnait. Et puis, vous pourrez juger par vous-même si elles me permettent de sortir par le haut de cette impasse ou au contraire, si je m'enferme. Alors, en fait, je m'excuse déjà auprès des personnes représentant des cadres théoriques que je n'ai pas cités ici, mais je me suis... installé, disons, dans les cadres théoriques de didactique qu'Alain a exploré au fil de sa carrière. Voilà. Alors tout d'abord, elle me disait, Sophie me disait, tu devrais repartir des questions qui te semblent fondatrices des diverses théories que tu vas citer ici. Et donc, tout d'abord, c'est le schéma que je vais suivre. Alors tout d'abord, évidemment, la théorie des situations didactiques, si on suit finalement la chronologie des recherches et des élaborations théoriques en didactique des mathématiques et en didactique didactique. Alors tout d'abord, la théorie des situations didactiques, elle me disait « tu devrais prendre aussi des lunettes bifocales », c'est-à-dire regarder un petit peu quelles sont les racines, les sources dans lesquelles plonge chacune de ces théories. Ça permettrait peut-être au public, s'il chausse ces lunettes-là, de comprendre un petit peu mieux. Alors bon, la théorie des situations didactiques, j'ai parlé assez souvent avec Guy Brousseau, qui est évidemment le père fondateur de la théorie, et je lui disais quand même, ta théorie, elle est quand même assez proche de Piaget, par certains côtés. Il me disait, non, c'est Bachelard. Voilà. Bon, donc, c'est-à-dire, me disait-il, j'ai bâti ma théorie, et puis je me suis aperçu, en étudiant Bachelard après, enfin, ou en cours de théorisation, que ce que je faisais était très proche de Bachelard. Donc une première lunette, c'est Bachelard. Et puis, quand même, il y a eu un article de Guy Brousseau dans un des derniers numéros d'Éducation et Didactique, dans lequel, quand même, il verse sa... Enfin, il remercie, en quelque sorte, ou il Piaget, en quelque sorte, pour les éléments dont il s'est servi pour élaborer la théorie des situations. Donc finalement, je ne tapais pas forcément toujours dans le faux, puisqu'il reconnaît maintenant que la contribution de Piaget à la théorie des situations. Alors les questions de la théorie des situations, moi j'en vois deux grandes, évidemment il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, donc... Mon exposé va être relativement sommaire et ne va pas pouvoir faire le tour de toutes les questions qui ont motivé la théorie des situations didactiques. Bon, il y en a deux. Pour chaque fois, j'en ai proposé deux. Pour la TAD, il y en aura deux. Et bon, je pars sous le contrôle des représentants de ces théories. Donc, je vais me faire assassiner à la sortie. Je fais appel à leur indulgence. Alors, première question, c'est, me semble-t-il, une question fondamentale de la théorie des situations, c'était comment faire en sorte que le savoir qui se construit dans la classe, et Alain a parlé non pas de sujet épistémique, mais de sujet élève-classe, soit épistémologiquement le plus proche du savoir mathématique. Et à partir de là, Guy Brousseau s'est lancé dans une théorie des situations qui permettait... De faire en sorte que de reconstituer dans la classe une genèse artificielle du savoir mathématique en l'occurrence. Ça, c'est la première grande question à laquelle la théorie des situations a tenté de répondre et de manière, disons, assez heureuse. Pourquoi cette question-là? Eh bien, parce qu'il y avait le corème, dont nous parlera sans doute les autres intervenants de cette journée. Et le COREM, c'était donc un centre d'observation et de recherche sur l'enseignement des mathématiques. C'était une école, l'école Jules Michelet à Talence, près de Bordeaux, dans laquelle, effectivement, on observait les phénomènes créés par ce type d'enseignement que Guy Brousseau a appelé un enseignement par adaptation, à partir où les élèves, sous la direction du professeur, bien entendu, se lancer dans une genèse artificielle du savoir. Et donc l'idée était d'observer les phénomènes didactiques que cela pouvait faire apparaître de manière à les analyser et à repérer ces phénomènes et ensuite les insérer dans le cadre d'une théorie qui est devenue la théorie des situations didactiques. Et vous savez tous que, bon, je ne vais pas tout citer les grands cadres de la théorie des situations didactiques, mais une de ses principales contributions a été le fait que les élèves sont pris dans un contrat didactique, Guy Brousseau a analysé les effets relatifs à ce contrat didactique, les effets Topaz, les effets Jourdain, etc., et puis a élaboré une théorie des situations didactiques, et comme je suis pris par le temps, je vous renverrai à l'ouvrage « Théorie des situations didactiques » publié à La Pensée Sauvage, qui fait le bilan, le point, à un moment donné, en 1998, si mes souvenirs sont bons, de l'avancée de la théorie des situations. Deuxième champ théorique qui a nourri le travail d'Alain Mercier, c'est la théorie anthropologique du didactique, peut-être à une époque où elle ne s'appelait pas encore comme ça, où elle s'appelait la théorie de la transposition didactique, et puis après elle s'est appelée l'approche anthropologique en didactique pour devenir la théorie anthropologique en didactique. Alors, quelles sont les lunettes bifocales, en quelque sorte, de la théorie anthropologique dont le représentant est là, le père fondateur, Yves Chevallard? Je dirais que la théorie anthropologique, pour avoir écouté à de nombreuses reprises Yves Chevallard, est, peut-être qu'il me contredira, mais une extension, en quelque sorte, de la théorie des situations didactiques. Donc, le premier apport, c'est la théorie des situations didactiques de Guy Brousseau. Et puis, la deuxième focale, c'est une visée anthropologique beaucoup plus large que la seule visée, qui constituait la théorie des situations didactiques dans sa première élaboration, à savoir la théorie des situations didactiques en mathématiques. Alors, quelles sont les questions fondatrices de cette théorie anthropologique du didactique ? Eh bien, les questions, me semble-t-il, sont celles-ci. On va s'intéresser à quelles sont les caractéristiques des pratiques humaines, bien que « pratique » ait connu une extension à travers le terme d'organisation praxéologique, puisqu'il n'y a pas de pratique sans qu'il y ait discours sur des pratiques, ces pratiques se développant à l'intérieur d'institutions dont Alain a parlé tout à l'heure. Donc, lorsqu'on va analyser, les pratiques à mathématiques ou les pratiques d'études des mathématiques, on ne va pas perdre de vue, en théorie anthropologique, qu'elles sont en interrelation, je n'ai pas trouvé d'autre mot, avec les pratiques humaines en général. Et donc, quelles sont les caractéristiques de ces pratiques mathématiques en relation avec ces pratiques humaines, ce qui nous envoie vers une recherche qui va aller, du générique au spécifique, du générique pour ce qui concerne les pratiques humaines, et on va essayer de regarder plutôt les pratiques humaines propres à l'étude, puisque c'est une théorie anthropologique du didactique, donc propre à l'étude, et puis comment elles vont se spécifier selon les divers cadres, les diverses spécificités humaines dans lesquelles les personnes sont engagées. Et donc, évidemment, ça a valu parfois à Yves Chevallard certaines incompréhensions du public, puisqu'il disait, il comparait par exemple les mathématiques à de la plomberie, ce qui a fait pousser de hauts cris, tu te souviens. Ou encore, il disait que finalement, quand on s'engage dans des pratiques d'études des mathématiques ou des pratiques à mathématiques, on pouvait prendre le modèle, par exemple, de la femme de ménage qui vient balayer la salle de classe. Et évidemment, là, pour des gens qui pensent que les mathématiques se situent au-dessus d'un peu tout, c'était un petit peu choquant. Donc, première question. Et deuxième question, quel est le poids des institutions dans les organisations qui relèvent à la fois de ces pratiques et des conditions et des contraintes sous lesquelles se déroulent ces pratiques ? D'où une théorisation anthropologique du didactique selon deux grands axes. D'une part, et c'est sans doute un apport, moi, personnellement, que je considère comme fondamental, dans cette patte humaine dans laquelle sont prises les mathématiques, l'enseignement des mathématiques, d'une part entre mathématiques et conditions et contraintes sous lesquelles elles se déroulent, c'est-à-dire le didactique en quelque sorte, c'est d'avoir réussi à donner une méthodologie, à fournir une méthodologie, et puisqu'on est dans ce séminaire dans le cadre des recherches en méthodologie, qui va distinguer d'une part les organisations mathématiques et les organisations didactiques de manière fonctionnelle pour pouvoir en faire l'analyse, alors qu'on sait que dans la réalité, dans la complexité de cette réalité sociale, les deux sont étroitement mêlés. Dernière approche théorique, c'est la théorie de l'action conjointe en didactique, dont les pères fondateurs sont aussi dans la salle. Donc voilà, ne me tombez pas tous dessus en sortant à la sortie. Alors, quelles sont les lunettes bifocales pour cette théorie de l'action conjointe en didactique ? Ben, je dirais que, peut-être qu'on me contredira, mais qu'elle repose sur les deux théories précédentes, à savoir la théorie des situations didactiques et la théorie anthropologique du didactique. Alors, les questions premières, me semble-t-il, qui ont motivé, qui ont généré cette théorisation-là. Alors, une première question, c'est, en fait, sous la forme scolaire qui est majoritairement en vigueur actuellement, quelle participation des élèves à l'enseignement dans la mesure où existent des interactions, et on me reprendra pour dire que ce ne sont pas des interactions, mais peut-être des transactions, entre le professeur et les élèves. Cette théorisation, Alain nous en a parlé, propose une généralisation de la notion de jeu, qui était un des termes premiers en théorie des situations didactiques. Et alors qu'en théorie des situations didactiques, c'était la stratégie optimale pour gagner contre le milieu étant considéré comme une partie de la nature, enfin se considère étant dénué d'intention didactique, avec la théorie de l'action conjointe, on va généraliser cette notion de jeu de manière à la faire porter aussi sur le rôle du professeur, qui va lui aussi jouer sur le jeu de l'élève afin d'optimiser le jeu de l'élève pour qu'advienne le savoir qui est visé. Alors, dans ce cadre-là, bon, Alain Mercier nous a parlé de ces éléments biographiques-là, et puis il a parcouru, je pense, lui aussi, à travers l'intervention qu'il vient de faire, ces divers cadres théoriques. Donc, je pense qu'Alain, il a repris des éléments théoriques qui venaient à l'origine de la théorie des situations et de la théorie anthropologique, mais non pas d'une manière opportuniste, en tant qu'outil pour... Il nous l'a dit, il était peut-être un petit peu incontrôlable dans ses recherches. Et donc, dans le cadre qu'il s'était fixé pour ses recherches, en tant qu'outil qui était nécessité. Et puis, Alain a développé quelque chose dont il ne nous a pas parlé, mais qui vient sans doute de la théorie des situations et qu'il a développé, c'était la nécessité de regarder, à travers les approches biographiques, comment les élèves rencontraient leur propre ignorance et comment les élèves allaient rencontrer le savoir comme puissance d'agir pour lever cette dimension d'ignorance en situation. Alors, bon, évidemment, il a étudié l'institution, son poids sur les personnes qui y sont assujetties, et ça lui a, il nous l'a dit tout à l'heure, ça l'a engagé vers le développement d'une approche clinique et en termes d'études de la biographie didactique des élèves, de manière à comprendre comment l'institution et comment l'assujettissement institutionnel fonctionnait. Puis ensuite, et ça c'était au tournant des années 90 et 2000, ben, il s'est engagé dans ce qu'il a évoqué, dans l'approche comparatiste en didactique. Et c'était le moment, avec des représentants qui sont ici, Marie Schubauer, Léonie et Gérard Sansevi, c'était le moment où on allait se poser des questions sur la généricité et la spécificité, me semble-t-il, du didactique en tant que tel. Voilà donc un petit panorama extrêmement succinct et puis qui a débouché ensuite à partir de cette approche comparatiste en didactique sur une théorisation de l'action conjointe en didactique dans laquelle je pense qu'il se trouve maintenant. Et voilà donc un petit panorama. Alors je ne sais pas s'il a éclairé les personnes ici. Je vous ai dit que c'était une entreprise extrêmement difficile. Je pense que c'était une tâche impossible et que, comme toute tâche impossible, eh ben, évidemment, je n'ai pas pu la mener à bien, la remplir et la réaliser. Je vous remercie. Et maintenant, je passe la parole à Maggie Schneider.